Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Je vous amène Julien. En voyant, les parents se lèvent. La mère dit à Julien, « Oh, que vous êtes-il arrivé, mon Dieu? Venez vous asseoir. » « Bonjour, madame. Monsieur. » Et il va s'asseoir.
« Racontez-nous. »
Gilbert lui dit, « Il faut laisser un peu se reposer. » Je vous ai déjà dit ce qui lui est arrivé. Julien lui dit, je suis sûr que c'est vrai. Il sort de sa poche la lettre de Françoise et la tend au père. Tenez, lisez. Le père la lit.
Et vous donnez bien rendez-vous.
La mère lui dit, je n'aimais pas du tout cette fille. Elle était bizarre. Puis elle a disparu. Il ne faut plus la revoir.
Ce n'est peut-être pas elle qui a écrit cette lettre.
La mère lui dit, quoi qu'il en soit, vous restez chez nous le temps qu'il faudra.
Le père lui dit, je peux demander au ministre de l'Intérieur de faire une enquête.
Julien lui dit, à quoi bon ?
Puis sur la sonnette pour faire venir la bonne.
On frappe à la porte.
Entrez !
Entre la bonne.
Servez le café à ce jeune homme.
La bonne demande. Café, thé, chocolat ?
Café.
Bien.
L'homme sort. Puis, elle revient pour le servir.
Merci.
Sa chambre. Il est allé prendre une douche. Gilbert lui a prêté des vêtements. Ensuite, Gilbert est allé voir l'immeuble de Françoise.
ces jours, tout est normal.
Il ouvre la porte de l'allée et entre.
Pas de traces de bagarre, de sang, rien dans l'allée.
Il monte à l'étage.
Il voit que les scies de la porte ont été enlevées.
Il pousse la porte. Entre dans l'appartement. Tout est calme, en place, aucune trace. Il fait toutes les pièces, ne voit rien.
Il s'apprête à partir lorsqu'il voit à terre, près de la fenêtre du séjour, une gabardine blanche. Il se souvient de ce que lui a dit Julien.
Regarde bien, elle est pleine de poussière. Tachée de sang par endroits. Enfin, de taches qui semblent être du sang. Fait les poches. Et trouve un papier. Où est écrit dessus en stylo PMDM43. Il se dit que c'est peut-être quelque chose d'important. Il le met dans sa poche. Regarde encore autour de lui. Rien. Poser la gabardine et sort de l'appartement. La porte de l'appartement d'à côté s'est ouverte. Un homme grand, fort, chauve, costume marron, lui demande :
Que faisiez-vous ici ?
Gilbert lui dit, j'étais un ami de Françoise. La porte était ouverte et je suis entré.
L'homme lui demande. Que quoi?
L'homme le regarde bien.
Gilbert demande, n'ai pas entendu du bruit cette nuit, par hasard?
L'homme lui dit,
non, pourquoi?
On m'avait dit qu'il y avait eu de la bagarre dans l'allée.
Non. J'ai rien entendu, et pourtant je ne suis pas sourd. Qui a pu vous dire une chose pareille? C'est très calme ici.
Gilbert voit que l'homme a une bosse au front et
pansement.
Gilbert demande : Vous êtes fait mal ?
Moi ?
Non.
Ah oui ! La bosse ! Je me suis cogné en me levant. Allez ! Au revoir !
Il a fermé sa porte. Gilbert regarde le long de sa porte. Monsieur Dutron, bizarre. Il descend. Une femme maigre, cheveux gris, manteau défraîchi marron, avec sac à provisions noir. Lorsqu'il est près d'elle, il lui demande :
Pardon, madame, vous habitez ici ?
Oui, depuis 35 ans.
Vous étiez là hier au soir ?
Oui, pourquoi ces questions ?
Gilbert lui dit :
Comme ça, pour savoir, vous n'avez rien entendu cette nuit, des bruits ou autres ?
Elle lui dit :
Des bruits ?
Non.
Pourtant, je ne dors que d'une oreille, à cause de mon mari qui fait la nuit. Je suis obligée de surveiller pour voir son arrivée, parce que la porte de l'allée est fermée.
Il faut que j'aille lui ouvrir.
Alors rien ?
Non, rien du tout.
Merci, madame. Et il s'éloigne.
Arrivé chez lui, il va raconter tout ça à Julien. Et Gilbert lui dit : Tête de mèche. Julien reste chez Gilbert. Tous les deux étudient dans la chambre de Gilbert. Les jours passent. Gilbert a prévenu la bonne que Julien était chez lui. Puis, un jour, Julien reçoit une lettre de la dame en noir qui lui dit qu'il ne risque plus rien. Il le dit à Gilbert. Gilbert lui dit : C'est peut-être un piège ? Julien lui dit :
Non, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en cette dame.
Il demande : Pourquoi nous aide-t-elle ?
Julien lui dit : Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'elle nous veut du bien. Nous saurons peut-être bientôt.
Gilbert lui dit : Alors tu retournes chez toi ?
Oui.
Bien.
Fais comme tu voudras.
Julien se prépare et va dire au revoir aux parents de Gilbert.
Merci pour tout. Je vais demander au ministre de surveiller l'immeuble où tu habites, sans lui dire pourquoi, puisque tu ne veux pas.
Et Gilbert leur accompagne.
dans la voiture et lui demande « Pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller à la police ?» Julien lui dit « Parce que si Françoise est dans cette histoire, j'aime mieux pas. » Gilbert lui demande « Tu as peur de savoir qu'elle cherche à te faire du mal ?» « Oui. » Les jours passent. Dans le laboratoire, jeune tout dont toi, on fait des recherches d'ondes qui visionneraient tout ce qui se passe dans un lieu et ces ondes seraient enregistrées sur ordinateur et visualisées. Par exemple, dans un endroit où il y a eu un crime, on visionne ce qui s'est passé. Ces ondes visuel ferait toute la superficie de la France et se faufilerait de partout comme l'air. Invisible, personne ne pourrait se rendre compte qu'elles sont dans l'air. Ces ondes seraient émises par satellite. Il y aurait des centrales qui décrypteraient et conserveraient ces ondes sur ordinateur. Des milliers de centrales dans le pays. C'est ce qui fait que l'on peut savoir tout ce qui se passe dans le pays. La plupart de ces informations inutile, c'est-à-dire à 90%, serait détruite au bout d'un an. Et ces informations seraient ultra confidentielles. Seule la police, justice, l'armée pourraient y accéder. On fait aussi une autre expérience. Au lieu de garder un cerveau que l'on relie à un ordinateur en essayant d'avoir un dialogue avec lui, l'on veut c'est enregistrer, imprimer sur CD tout le cerveau d'un coup. Comme cela, on aura son savoir, sa façon de penser, de réagir, ses goûts, et même sa façon d'évoluer, de s'adapter aux nouvelles informations. Tout ça en une seule fois. Après, on pourra détruire le cerveau et mettre le CD dans l'ordinateur. L'ordinateur réagira, pensera avec les idées, l'évolution. C'est ce qui est le plus difficile. Et le plus compliqué, c'est l'évolution. Car si on lui pose des questions sur une nouveauté, il doit répondre
comme si aurait répondu la personne décédée. Vous me suivez? Bon. Aura de la personne, le caractère, ses idées, etc. et tout sur ses dés. Il pourra dialoguer et répondre comme la personne et ceci éternellement. Imaginez-vous quand on eut mis le cerveau de Balzac sur CD et le CD dans un ordinateur pendant des années et des années et même toujours si l'on veut parce que l'on peut faire des copies de CD pour les changer s'ils sont usés ou l'ordinateur on peut le changer aussi. On aura les idées de Balzac, on pourra lui parler, il pourra même continuer à écrire. Il sera éternel. Il aurait été éternel. Parce qu'on ne peut pas dire il sera. Il aurait été éternel. L'éternité, c'est ça. Ce n'est pas l'éternité de la chair, qui est pourrissable, mais de notre esprit, de nous, de ce que nous sommes. On prépare aussi un robot à forme humaine recouverte de silicone imitation peau. Il aura un ordinateur sur lui avec le CD de la personne décédée. L'ordinateur marchera comme son cerveau. Il aura les idées, pensées, réfléchira, etc. Et en même temps, fera fonctionner son corps comme la personne l'aurait faite. Un Balzac éternel, en quelque sorte. Ou votre conjoint, ou votre enfant, ou votre mère, etc. Et même vous-même. L'éternité, c'est ça. Non le corps physique, ce n'est qui n'est une machine qui permet d'évoluer dans ce monde, mais la personne en elle-même, c'est avant tout l'esprit, ce qu'elle pense, etc. Le corps périssable de chair peut être remplacé par un corps impérissable, indestructible, et le cerveau peut être conservé au lieu que les données du cerveau sont enregistrées sur une chose dégradable, on les met sur du matériel indégradable. Il n'y a que le support qui change, mais le reste ne change pas. Oui, le cerveau humain ces informations sont mises sur des choses dégradables, c'est-à-dire sur de la chair, des choses qui pourrissent. Tandis que on peut fabriquer des cerveaux où on enregistre les informations sur des choses qui sont indégradables, qui ne peuvent pas pourrir. On remplace simplement ce qui se dégrade par des choses indégradables. Voilà le travail des laboratoires Jeune Tout Pontois, ultra secret. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer. Les jours passent. Gilbert trouve ses amis, ses nouveaux amis, trop envahissants. Ils lui téléphonent constamment, vont le chercher chez lui, ils sont tout le temps près de lui, ils parlent sans arrêt de l'entreprise. Ils se ressemblent tous, ont tous les mêmes idées. Il a besoin de voir d'autres personnes et de respirer un peu. Refuse leurs invitations, leur dit qu'il a du travail et qu'il est un peu fatigué. Il les voit de moins en moins, mais il résiste. Des jours passent. De Gilbert organise de temps en temps des soirées. Elle s'y sent obligée à cause de la situation de son mari. Gilbert doit lui aussi être présent. Il n'aime pas ça, mais s'il n'y allait pas, sa mère lui ferait des scènes pendant des jours et des jours. Alors il préfère y aller. Son mari non plus n'aime pas ça du tout, mais il est bien obligé d'y être puisque c'est pour lui qu'on fait tout ça. La plupart du temps, les soirées se passent à Paris. Mais une fois par an, on invite plus de personnes et on les invite dans le château de Bourgogne. Charlotte invite à ses soirées des gens influents tels que des ministres, des artistes ou des gens qui comptent dans le monde sans être artistes, hommes politiques ou d'affaires. Ce genre de personnes aux goûts raffinés, aux idées respectées, qui sont vraiment les gens du monde. Ils sont discrets, leur discrétion les montre. Ils parlent peu et ce qu'ils disent s'écoute. Ils ont l'intelligence modeste et c'est la vraie élégance de naissance et non celle de la mode. On ne voit qu'eux malgré leur modestie. Leur tenue. La modestie de leur tenue. C'est qu'en plus de leur simplicité, ils ont du goût. Et qu'on leur connaît pour être les vrais aristocrates et non des arrivistes. Dans les soirées, il y a très peu de gens qui sont comme ça. Ils sont fort peu nombreux. Et restent peu. C'est rare lorsqu'ils acceptent une invitation.
Je vais faire mettre une porte.
Ils ne vont pas chez n'importe qui. Jamais dans des soirées vulgaires, de mauvais goût, trop tapageuses, etc. Toutes les personnes qui organisent des soirées en ont au moins un ou deux de ces personnes. Pour anoblir, mettre de la grandeur, du goût, du sérieux dans ces soirées. Et montrer que ce n'est pas que des soirées organisées pour n'importe qui, par n'importe qui. On invite une chose comme ça, mais qu'on invite aussi des personnes qui sont comme ça. En espérant bien entendu qu'elles viennent, car la plupart du temps elles ne viennent pas à cause des invités, du côté trop bruyant ou du pourquoi de la soirée. Des fois elles viennent pour ne pas faire de la peine à la maîtresse de maison ou parce qu'elles souhaitent rencontrer une personne. La maîtresse de maison prévient tout le monde que monsieur ou madame un tel va venir et tout le monde va à la soirée avec curiosité. Vous pensez, monsieur un tel, qui était l'ami de un tel, etc., etc., celui qui a fait connaître tel peintre ou tel musicien, etc., etc. La soirée se centralise sur cet invité. mais par respect pour lui, on lui montre que l'on a du goût et on ne l'interroge pas trop et reste discret.
Tu serais pas le frère à Matt Sanders? Booba, c'est la gueule crachée de Matt Sanders, trouve pas? Ah, t'es sans frangin!
Non, rien à voir. Je le connais pas. Je m'excuse.
Mais où sont tes manières, Stevie? Merde, frangin à Matt! Faut y offrir un coup.
Quoi, qu'est-ce que tu veux?
C'est du vieux whisky, mec.
Si c'est lui qui, selon son plaisir, choisira à qui il veut parler. Charlotte, elle aussi, a un homme.
Alors, ce grand con de Matt, il va bien?
Ouais, depuis le temps qu'on l'a pas vu, ce con.
En bonne maîtresse de maison, une personne de ce genre, oui, une, rien qu'une, parce qu'à notre époque, ce genre de personne a tendance à disparaître. Le bon coup,
faut que j'aille votre truc.
Les hommes.
Et serre la place à Matt pour moi, ok?
C'est un sacré mec, ton frangin.
La réunion. Les bons goûts ne se font plus. Les gens que nous faut n'existent plus. On a cassé le moule. Pour toutes ces soirées, elle ne manque pas d'envoyer une lettre d'invitation à cette personne. Elle l'a connu un jour, par hasard, dans une église romaine. Elle regardait une vierge à l'enfant. Ils se sont émerveillés tous les deux. On passait l'après-midi ensemble à parler, etc. Et à marcher dans les rues de Rome. Ils sont allés dans un café, boire un café. Quelques jours plus tard, elle l'a retrouvé à Venise. Il l'a invité à un café, au café Florian, manger une glace. Elle accompagnait son mari en voyage d'affaires. Lui voyait des industriels, des hommes d'affaires, et elle, la journée, était seule.
Ah, ben elle est venue quand même, ça fait plaisir.
Toute la journée. Donc, elle pouvait le voir. Après ce voyage en Italie, où elle a croisé cet homme du monde, si mystérieux et de goût, ils se sont quittés bons amis. Elle lui a donné son adresse, s'est renseignée sur lui, une fois à Paris, et après, a pris surprise que c'était l'homme le plus influent de France. En matière d'art, en littérature, sculpture, musique, est l'homme le plus discret, le plus courtois et difficilement approchable. Depuis Rome, elle ne l'a jamais revu, mais elle a continué à lui envoyer des invitations qu'il a toujours gentiment refusées. Cette fois, elle le lui a encore une fois envoyé. Et lui a répondu qu'il la remerciait et acceptait avec joie son invitation. Elle est toute heureuse. Elle dit pendant le dîner à son mari et à son fils.
C'est mon invitation. Je vais désinviter certaines personnes trop vulgaires et bien choisir mes invités.
Gilbert lui dit, je crois que je suis suffisamment vulgaire pour parler à ta soirée. Elle lui dit,
ne fais pas l'imbécile, tu y seras. C'est un homme charmant, il faudra être discret et ne pas le mettre aux entrées de notre soirée. Cela risquerait de l'effaroucher et ce serait pas très poli.
Refait la liste de ses invités et prend que des gens bien, pas vulgaires ni trop arrivistes.
Elle veut démontrer qu'elle a du goût et qu'elle fréquente des gens bien, comme il faut. Charlotte, en invitant les autres personnes, les a prévenues de la venue de cette personne distinguée pour qu'elle ne fasse pas d'impair. Cela veut dire que lorsqu'une personne a du goût est invitée, il faut faire attention à sa tenue, pas de choses vulgaires, de couleurs chatoyantes, trop mode, pas de maquillage ou de coiffure très voyante. Habits élégants, mais sobres, bijoux discrets, robes blanches, crème, noire, marine, décolletées comme il faut. Le buffet et les couverts ont été soigneusement choisis. Pas nouveau riche. Pour les amuse-gueules, pas des amuse-gueules supermarché mode, jeunes ou recettes exotiques, mais classiques français. Pour les boissons aussi. Le couvert de l'argenterie, de la vieille argenterie discrète. La décoration des salons, des fleurs, mais juste ce qu'il faut et sans odeur. Les femmes non plus ne doivent se parfumer, mais juste ce qu'il faut. Les hommes, jamais. Une musique douce, orchestre de chambre qui jouera du Mozart. Les hommes ont reçu l'ordre de s'habiller avec des smokings classiques noirs, pas de couleur et de chaussures vernies et des chaussures vernies. Ouf, tout semble en ordre. Charlotte se dit que ce grand homme sera et verra qu'elle sait recevoir et a du goût. Le maître d'hôtel a reçu l'ordre de ne faire entrer que des gens invités. Tout est prêt. Gilbert est allé au début de soirée chez Julien à manger une pizza en regardant un film d'action. Il dit à Julien, plus tard j'irai à cette foutue soirée. Mais malgré tout, à 21h30, il est obligé de quitter Julien. Il faut bien qu'il se mette un peu et qui se montre à cause de sa mère, car elle va être furieuse.
Il arrive chez ses parents, il est 22h. La soirée bat son plein. Toute la maison est éclairée, du monde dans tous les salons qui ont été ouverts en enfilade. Petite musique discrète, l'on boit, l'on mange. Il arrive au milieu de tout ça, les mains dans les poches, en smoking noir, les chaussures vernies. Il est allé chez Julien, comme ça. Son côté décontracté, désinvolte, et en même temps lumineux, un petit sourire discret aux lèvres, le rend d'une beauté, d'une élégance exquise. On ne voit que lui. Il n'y a que lui qui a l'air vivant au milieu de pantins de cire. Il est délicieux, mais les gens qui le voient ne peuvent s'empêcher de le trouver comme une apparition pleine de vie et de délicatesse. Lui, les voit à peine. Tout à coup, il voit arriver à lui un homme grand, mince, les cheveux blancs, lunettes en métal doré, la tête un peu osseuse. Il vient à lui, des doigts dans la poche de son gilet. L'homme lui dit « Bonsoir, charmante soirée, n'est-ce pas ?» Gilbert fait « Oui ?» L'homme lui dit « Pas trop terne pour un jeune homme comme vous ?» Gilbert hausse ses épaules. L'homme lui demande « Vous êtes de corvée ?»« Oui, si l'on veut, je suis le fils de la maison. » L'homme fait « Ah, enchanté !» Je ne savais pas que Madame Franblanc avait un fils aussi charmant. Gilbert lui dit, je suis Gilbert, et moi, monsieur de Janju, vieux monsieur que tout le monde connaît, ou plus ou moins, de nom. Gilbert lui dit, ah, vous êtes celui que l'on attendait. Il paraît que vous êtes une très grande personnalité. Ma mère a eu un mal de chien pour tout préparer. Monsieur de Janju lui dit, je ne suis pas quelqu'un de si remarquable que ça. Vous savez, j'ai simplement vécu un bon nombre d'années, ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens fort intéressants. Et je continue à en voir de nouveaux, tels que vous. Vous avez une grâce exquise. Je n'ai jamais vu ça. Même chez Charles. Gilbert rougit. Monsieur de Janju continue. Vous êtes, à votre manière, une espèce d'œuvre d'art. Il voit Gilbert devenir tout rouge. Il lui dit, je m'égare, excusez-moi, j'ai connu tant de gens. Gilbert lui demande, qui ? Il lui répond, tout ce qui faisait le bien. Il y eut un temps, l'époque où les gens savaient encore vivre, où l'élégance était de mise. J'ai connu les Hautebord, bien entendu, toute la famille. Et quelle famille ! Ils habitaient une immense propriété et ne sortaient presque jamais, sauf Hélène, avec un H, qui, elle, de temps en temps, faisait des courses en ville. Avec sa Rolls blanche et chauffeur. Son mari, un écrivain exceptionnel. Toute la famille exceptionnelle. J'ai fait aussi la connaissance de Charles à un concert, Sol Pleyel, où on jouait la valse de Ravel. C'était un jeune homme exquis et qui était d'une beauté, d'une élégance. Mais je dois avouer, pas aussi belle que vous, si vous le permettez.
Ces gens-là savaient vivre, c'était quelque chose. J'ai connu aussi les Condorcet, puis plus tard, les Pontois. Ce n'était pas aussi bien que les Hautebord. Non, rien de semblable. Et puis c'était des bourgeois, pas des nobles, mais pas mal. La mère, quelle femme, et la fille avec ses associations humanitaires que Madame de Hautebord aidait. Quelle époque et quelle fête fastueuse, le grand luxe. Après les Pontois, ça n'a plus été la même chose. Tout a changé. Je dois être le seul à aimer certaines choses, telles que les livres, la peinture, la musique, la vraie. Gilbert lui dit, on vous estime beaucoup, vous savez. Oui, comme une personne qui représente un monde résolu. Les gens ont changé. Heureusement qu'il y a encore des personnes agréables et qui vous donnent espoir en l'avenir. Gilbert lui dit, oui, il n'y a pas que des hommes d'affaires. Vous savez, vous me donnez espoir en l'avenir. Vous êtes si charmant, distingué. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Gilbert lui répond, j'aimerais écrire et enseigner. Je me doutais qu'une personne comme vous ne pouvait pas être un homme d'affaires. Vous avez une très grande délicatesse, comme Charles, que j'ai beaucoup aimé. Il regarde autour de lui et dit, je me demandais pourquoi je me trouvais ici. Maintenant je crois le savoir. Il y a quelque chose dans cette maison qui fait qu'elle est spéciale, une atmosphère. Je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et maintenant je sais que c'est vous. Gilbert est tout rouge de tant de compliments. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.